Donc ce film appartient, le film que nous allons voir, par exemple 51, le titre dit de quelle époque il date, il appartient au cycle qu'on a appelé le cycle conjugal Ingrid Bergman et Rossellini, c'est-à-dire Stromboli, Europe 51, Voyage en Italie, La Peur et Jeanne d'Arc.
Oui,
qui passe... Car il ne faut pas oublier Jeanne d'Arc, à laquelle mon ami et qui appartient à ce cycle, la Jeanne d'Arc de Claudel et Honegger, qui a été mise à l'écran par Rossellini. Alors, comment essayer de définir Rossellini de la manière la plus objective? Pour avoir vu ces films depuis le début, Rome, ville ouverte et païsa, ni une annexion religieuse, ni une annexion politique. Rossellini est convaincu qu'il y a dans le monde une discordance, parce que l'homme ne se sent pas à contenir l'homme séparé d'eux. Et ceci apparaît de ses premiers films, comme Rome, ville ouverte et païsa, où ça apparaîtra plus tard. Le général de la Reverrée ou les Amadés de la Nuit, ça paraît entre-temps dans le cycle de Bergman. Il y a un tragique dans les conditions terrestres, c'est que l'homme est replié sur lui et disjoint d'eux et séparé de la communauté. Au contraire, si l'homme accepte de s'intégrer dans une sens universel, alors à ce moment-là, il est. Il y a une ontologie rossellinienne, il est, on est, on existe vraiment que dans la mesure où on s'intègre dans. Jusque-là, eh bien, on ne peut pas dire qu'on existe, on n'existe pas, on n'a pas lieu. Voilà. Et pas, n'a pas lieu. Donc, voyez-vous, il y a une grande vision, il y a un grand messianisme. J'en prends des questions, mais je pense que Rossellini ne les récuserait pas. En tout cas, il ne les récusait pas quand j'ai parlé avec lui à propos de Léonce Fioretti. D'ailleurs, Léonce Fioretti, on pourrait dire, c'est au centre de son œuvre. Le Poverello, c'était un homme qui pleurait, d'ailleurs dans le film, il pleure de la souffrance d'autrui et qui pensait qu'il n'y a pas d'amour dans le monde. Vous connaissez la fameuse phrase, l'amour n'est pas aimé. Donc cet aspect de déficience d'amour, c'est ça qui frappe Rossellini et c'est ça qui va faire le sens de l'héroïne de Europe 51. Alors cette héroïne, j'en parlerai tout à l'heure dans le commentaire, très gentiment on a voulu me donner le temps nécessaire pour analyser le film. Cette héroïne, ça, il faut que je vous le dise parce que j'ai eu tous les ennuis et toutes les satisfactions aussi avec mes 44 visions antérieures. Comme j'ai présenté ce film, peut-être que j'étais très maladroit, on ne sait jamais si on l'est. Les spectateurs de tout âge ont cru que le personnage de Catherine était exemplaire. Évidemment, quelqu'un qui renonce au bien-être, au luxe, à tous les arguments et à tous les agréments du monde dans lequel il est, pour se vouer au service des pauvres et des malheureux, c'est exemplaire. Eh bien non. Et je vous prie d'être extrêmement attentif là-dessus. Vous verrez dès le début du film que les raisons pour lesquelles elle renonce à son confort, à son bien-être, et elle se rue dans le monde des malheureux, sont des raisons ambiguës, complexes, et qui ne sont pas entièrement nettes. Donc, Catherine n'est ni Antigone, ni Jeanne d'Arc. Ce qui complique un peu les choses, c'est que quand on a questionné le cinéaste, il a dit « Mon histoire a été inspirée par trois événements. » Je les résume très rapidement. Premièrement, un jour, à Rome, il y avait un très riche marchand d'étoffes qui a été pris d'une sorte d'illumination. Il a distribué toutes ses étoffes à tous les gens qui l'entouraient. Ceci est absolument authentique, ben, le cinéaste le raconte. Donc un marchand d'étoffes très riche, comme était justement le père de François d'Assise, voyez, tout recommence, et puis il s'est dépouillé de tout. Et il a vécu pauvrement. Le second épisode, eh bien, c'est Francesco. Francesco qui deviendra Francesco, jongleur de Dieu. C'est la destinée de François d'Assise qui lui aussi a renoncé au bien-être et a vécu dans la pauvreté. Et le troisième repère, c'est Simone Veil. Alors attention, hier soir, comme je suis très scrupuleux, j'ai téléphoné à un de mes amis qui est un spécialiste de Simone Veil. Et entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi il y a un purgatoire pour Simone Veil. Moi j'estime qu'on n'en parlera jamais assez. Mais c'est curieux, il y a une vingtaine d'années, on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on la méconnaît? Enfin, je vous signale que ça vous donne envie de lire La pesanteur et la grâce, par exemple, de Simone Veil. Alors, Simone Veil, qui est quelqu'un qui a renoncé, qui était agrégé de philo, qui a renoncé à sa vocation, qui pendant la guerre a donné ses tickets de pain, qui a travaillé en usine, comme Catherine travaillait en usine, a été en effet le point de départ. Bon, mais ces trois exemples, le marchand d'étoffes, François d'Assise, Simone Veil, c'est uniquement le point de départ, ce sont les repères, les coordonnées. Mais en fait, pour Rossellini, Catherine ici est plutôt un cas. C'est le cas de quelqu'un qui ne peut plus supporter de vivre dans ce monde, qui en même temps a mauvaise conscience, vous verrez pourquoi, et la mauvaise conscience, donc il faut qu'elle en sorte. Il faut qu'elle en sorte. Et alors là, attend le second sujet du film, elle en sortira toute seule. Et c'est là où elle rejoint à la fois François d'Assise et Simone Veil, et Don Quichotte, et bien d'autres. Elle va faire un itinéraire seule, toute seule. Et alors, second sujet, le film s'appelle pas Catherine, le film s'appelle Europe 51. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Europe de 51, il y a des cadres, il y a des catégories, il y a des structures. On dit aujourd'hui, il y a des mafias. Parmi ces mafias, il y aura l'Église, il faut dire les choses, il y aura la magistrature, il y aura la police, il y aura les avocats, les avoués, il y aura les psychiatres, une grande mafia, très puissante, hier comme aujourd'hui. Et ces gens-là, voyant le comportement de Catherine, diront « Mais c'est pas possible qu'une femme se comporte comme ça. » Vous verrez, dans la dernière partie, c'est très important, souvent ça passe inaperçu. Il y a une séquence où sont réunis le psychanalyste, le commissaire, le magistrat, et ils disent « Mais elle n'est pas récupérable. » Donc moi, je m'excuse, je ne me compare pas à Catherine, mais je sais que souvent, des amis apparus à Montpellier ont été gênés pour me classer. Ils disaient, mais est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que vous êtes de gauche? Moi, je sais que je suis plutôt anarchiste, mais enfin, ça ne concerne que moi. Mais enfin, mais on ne peut pas vous classer, c'est gênant. Alors ça, c'est l'idée fondamentale de Rossellini, c'est qu'on ne peut pas la classer parce que dans ce monde d'Europe 51, qui est aussi le monde de l'Europe 1992, on a besoin de classer, on a besoin de répertorier. Alors voilà, puisqu'on ne peut pas la classer, elle a un comportement qui n'est pas normal, qui n'est pas sain. Alors quelqu'un qui a un comportement comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? On l'élimine. Je ne raconte pas le film, mais il faut même que je l'introduise.
Absolument.
On l'élimine, on la met en dehors. Je le développerai tout à l'heure. Il me reste quelques minutes pour vous dire que Europe 51, comme Voyage en Italie, comme Stromboli, c'est pas seulement un regard, c'est pas seulement un témoignage, c'est pas seulement un film de combat, c'est une écriture nouvelle dans l'histoire du cinéma. Alors cette écriture, je voudrais l'introduire d'un mot en signalant le livre de Bergala. Il se trouve que Alain Bergala, qui était mon étudiant à Aix-en-Provence et qui maintenant est un des meilleurs critiques, un des meilleurs écrivains de cinéma, a consacré au Cahier de l'Étoile un livre à Rossellini. Alors, il définit Rossellini, il essaie de définir le néoréalisme de Rossellini, qui n'est pas le même que celui de Desica, ni de Desantis, ni de bien d'autres. Il dit, voilà, c'est un néoréalisme intimiste. Et alors, il cite une phrase de Rossellini lui-même. Alors attention, ce que je vais citer, ça n'est pas hagelien ni bergalien, c'est rossellinien. Attention, hein, je cite. Sur ces personnages, celui de Stromboli, de Voyage en Italie, d'Europe 51, ou de la peur. Ce sont des êtres tout petits, au-dessous de quelque chose qui les domine, et qui d'un coup les frappera effroyablement au moment précis où ils se trouvent dans le monde sans s'attendre à quoi que ce soit. Alors, faut-il faire intervenir ici une transcendance? Je ne le ferai pas, je suis trop prudent. Moi, personnellement, je crois qu'il y a une transcendance, mais on peut très bien juger le film sur transcendance. L'essentiel, c'est que c'est un être tout petit, perdu dans le monde, et qui est frappé. Tout d'un coup, il est frappé par quoi? Il est frappé par quoi? Alors, je conclue, je conclue. Et je vais conclure de manière prudente. Il est frappé. Catherine, comme l'héroïne de Stromboli, comme l'héroïne de la peur, ont un choc, un traumatisme qui les amène à changer de vie. Alors, est-ce que c'est un concours de circonstances? C'est possible. Ou est-ce que ces êtres-là appartiennent à la catégorie des gens qui sont... Alors, ne soyez pas irrités si je dis un mot qui peut vous paraître un peu trop engagé sur un plan spirituel. Il faut tout de même pas être sincère, et jusqu'ici j'étais objectif, alors je dis ce que je pense. Voilà. Il y a des êtres qui, un jour ou l'autre, sont élus. Élus. Vous savez, Alfred de Vigny fait parler Moïse. Et oui, voilà Moïse qui apparaît tout d'un coup, on est étonné, on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Je vais vous dire ce qu'il vient faire, Moïse. Il fait parler Moïse, et vous savez, Alfred de Vigny était un peu en difficulté avec la Bible. Et Moïse dit, il s'adresse à Dieu, évidemment, et il dit, que vous ai-je donc fait pour être votre élu? Mais ça va très loin, ça. Et on peut l'appliquer à Catherine et à tous les personnages de Rossellini. Eh bien, un jour ou l'autre, il y a peut-être une élection, mais qui peut être laïque, qui n'est pas forcément religieuse. Il y a des gens qui ont été élus pour avoir une vocation. Il y a des gens qui vivent dans la quiétude, dans la tranquillité, dans le bien-être, et puis il y a des gens qui ont une vocation. Alors, Catherine, même si elle assume maladroitement cette vocation, et je répète que ce n'est pas un modèle, qu'elle s'y prend peut-être très mal, mais à la fin, je vous en supplie, faites très attention à la dernière séquence, d'ailleurs, je vais l'analyser tout à l'heure plan par plan. Dans cette dernière séquence, il semble bien que l'atmosphère lumineuse dans laquelle nous est présentée Kate Bergman semble montrer qu'elle a été élue, qu'elle a une vocation. C'est là un aspect du néoréalisme qui méritait d'être signalé. Je remercie Pierre Pitou et son équipe de m'avoir permis de le signaler. Je pense que demain Alain Bergala le signera dans des perspectives voisines. Une espèce d'intimité, de spiritualité du néoréalisme. Alors, nous allons accompagner Catherine, j'ose pas dire dans son chemin de croix, mais disons, sans être d'accord, dans son itinéraire spirituel. Nous savons tous ici, tous et toutes, que tous les grands films sont tous des voyages initiatiques. Bon, j'ai dit ça il y a 10 ans, mais on l'a dit avant moi, on dira après moi. Eh bien, il y a un itinéraire spirituel avec Catherine que j'espère nous partagerons dans la joie et l'exaltation. Merci, vous avez du mérite à être si patient. À tout à l'heure.